La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes prêts à affronter cette nouvelle émission de La Voix des Arts sur les femmes artistes créatrices et plus particulièrement sur les créatrices espagnoles. Nous nous sommes quittés précédemment sur des musiciennes, des compositrices espagnoles du 19e siècle. Elles se sont mêlées aux écrivaines, poètes, auteurs en littérature. Alors comme écrivaine, j'ai cité Rosa Chassel, Goncha Mendez, Maria Teresa León, Maria Guari. Pour nos compositrices, ce furent Mathilde Salvador, dont vous avez écouté un prélude à la guitare. J'ai cité, sans hélas recueillir d'informations, Dolores Beniz Bermudez. Ensuite, ce fut Aurelia Rosa Calvé, puis Narcisa Freixas. Ensuite, Carmen Carr de Alfonsetti, sans oublier Ascensión Martínez Ramírez, ainsi que Luisa Casagemas, Icole, pour finir avec Maria Luisa Chevalier-Supervielle. Vous constatez que les Espagnols apprécient la compagnie, car quand elles arrivent à vous, c'est presque en armée. C'est le cas de le dire, car elles sont particulièrement combatives, tout en étant, comme vous avez pu le constater, créatives. Bon, d'ailleurs, j'en reçois encore une, nommée cette fois-ci Maria Luisa Ponsa, qui, elle, est née à Barcelone en 1875. Alors, qui est-elle et qu'a-t-elle composé, car c'est une compositrice et nous allons encore rester en leur compagnie. Eh bien, elle a étudié, elle aussi, très jeune, la musique, dont le piano, notamment avec les compositeurs Isaac Albéniz et Arthur Rubinstein, ce qui n'est pas rien. Et elle était si brillante qu'une bourse lui a été accordée pour lui permettre d'étudier à Paris, où elle remportera des prix, ce qui lui vaudra d'être considérée comme une artiste de premier ordre. Alors, elle reviendra à Barcelone pour se produire en public. Elle fondera l'Institut musical de Barcelone. Et malgré son mariage et sa maternité, elle ne veut pas renoncer à la musique. Alors, elle aussi est cataloguée de féministe et a collaboré d'ailleurs à des journaux féministes. Alors, ses dispositions pour l'écriture lui ont apporté également des prix. Mais hélas, elle décédera relativement jeune, car une pneumonie l'emportera à l'âge de 43 ans. Alors, qu'a-t-elle composé ? Il semblerait que ce soit des valses et des musiques de salon, des pièces pour piano, des chansons enfantines, des chansons catalanes, dont un hymne à la Catalogne, également une suite espagnole. Et elle utilisera pour la composition un pseudonyme dont je n'ai pas réussi à savoir s'il était masculin. Il s'agit de M.L. d'Orsay. Alors a-t-elle proposé Maria Luisa, car les initiales M.L. Correspondent bien à son prénom. Alors en voilà encore une autre, elle aussi née à Barcelone en 1882, nommée Onia Farga, qui va d'abord étudier à l'école de musique de Barcelone, puis se perfectionner en piano et violon et étudier la composition. Alors elle sera une brillante pianiste et violoniste qui se produira à l'international puisqu'elle effectuera des tournées en Espagne, mais aussi à l'étranger comme en France, en Suisse, en Belgique, où elle interprétera également ses compositions. Et elle fondera par la suite elle aussi une académie de musique à Barcelone et deviendra enseignante. Alors qu'a-t-elle composé ? Eh bien des œuvres pour piano et violon qu'elle interprétait en public, comme je vous l'ai dit, des chansons, des pièces pour chorale, pour orchestre, œuvres de scène également. Bon, c'est un peu le même parcours que la précédente, d'une certaine manière. Mais je me dis, puisque nous avons des compositrices espagnoles sous la main et en aussi grand nombre, le mieux serait encore d'écouter ce qu'elles ont produit, tant que faire se peut. Mais malheureusement, j'avoue que j'ai du mal à trouver des œuvres de ces femmes. Alors je ferai avec ce que j'ai, en espérant quand même vous apporter de quoi nourrir votre curiosité ou répondre à vos aspirations de mélomane. que je partage avec vous d'ailleurs. Ceci dit, la plupart de ces femmes du dernier tiers du XIXe siècle annoncent déjà un renouveau musical en lien avec ce qui est nommé l'avant-garde et qui touche tous les secteurs de la création artistique. Or, c'est un vent de renouveau qui commence à souffler fin XIXe siècle et qui fait que le XXe siècle sera riche en transformations, en courants divers et variés, aptes à révolutionner tout le monde artistique et aussi à perturber bon nombre de nos contemporains, vous peut-être, en tout cas, qui rencontreront quelques difficultés à se retrouver, à comprendre et même à s'adapter à tout ce qui se présentera à eux d'artistique. Et je rappelle que c'est l'une des raisons pour laquelle j'avais conçu La Voix des Arts, ce que vous pouvez écouter dans les premières émissions. Et c'était bien avec l'objectif de vous donner quelques clés, au moins de compréhension, ce qui permet quand même de se familiariser et d'adhérer ou pas à tel ou tel courant. Mon but n'étant certes pas de vous influencer dans vos choix ou de définir vos goûts, mais au moins vous aider à vous retrouver dans tout ce qui s'est produit en art au cours du XXe siècle. Bref, et quoi qu'il en soit, des femmes musiciennes annoncent quelque peu l'avant-garde. Alors est-ce le cas de Maria Rodrigo, qui elle est née à Madrid en 1888, qui fut exilée en Colombie, puis à Porto Rico, où elle mourut en 1967. Alors celle-ci est issue plutôt d'un milieu cultivé, car même sa sœur fera ses études et sera l'une des premières femmes psychologues en Espagne. Quant à Maria Rodrigo, elle commencera par étudier la composition au Conservatoire de Madrid, puis à Munich, je crois même avec le compositeur Richard Strauss. Elle sera d'ailleurs considérée comme une artiste de premier plan. J'ai même lu que Wagner en faisait cas. Quoi qu'il en soit, elle a dédié sa vie à la composition et ensuite à l'enseignement. Et justement, il semblerait qu'elle avait à cœur d'enseigner la musique, et notamment classique, aux enfants défavorisés ou issus des classes sociales les plus humbles, et à œuvrer dans son sens. Et elle a d'ailleurs fondé avec le violoncelliste Pablo Casal le Conservatoire de Puerto Rico. Or, c'est quelqu'un qui est connu pour son humanité, son talent et son exigence. Alors, qu'a-t-elle composé ? Musique de chambre, des sonates, poèmes symphoniques, opéras, des sarsuelas, des symphonies, et aussi des ballets et chansons pour enfants. Et d'ailleurs, c'est le moment de faire notre pause musicale, et je suis contente de vous proposer d'écouter une musique de Maria Rodrigo intitulée « La copla intrusa ». Alors, que dites-vous de rester en compagnie des compositrices espagnoles? Ne trouvez-vous pas que nous sommes en bonne compagnie, n'est-ce pas? Surtout qu'elles se bousculent encore aux portes de la Voix des Arts. Mais tiens, voilà Emiliana de Zubeldia, qui est née à Salinas de Oro, un village dans la province de Navarre en 1988. Alors, il semblerait qu'elle fût précoce, elle aussi, encore une enfant prodige. Alors, est-ce vrai? Car elle aurait donné son premier récital à 5 ans en interprétant une pièce composée par son frère. En tout cas, elle fait un beau parcours de musicienne, mais au préalable, elle fera un beau parcours d'étudiante, ne serait-ce qu'en réussissant brillamment ses études musicales, notamment avec l'instrument qu'est le piano. Alors elle étudiera d'abord à Pamplonne, poursuivra à Madrid, et enfin accédera à la réputée Schola Cantorum de Paris, qui a été fondée en 1894 par un maître de chapelle nommé Charles Borde, et les compositeurs enseignants Vincent d'Indy et Alexandre Guillemant. Alors c'est davantage une école de musique religieuse qui évolue au cours du temps. On y apprend le chant a cappella, intitulé aussi « plein chant », qui est une musique vocale, mais sans instrument de musique. Alors, cette école est toujours située à Paris. Maintenant, elle est cataloguée comme une école d'enseignement supérieur de musique et aussi de danse et d'art dramatique. Et c'est donc à Paris qu'Emiliana de Zubeldia rencontrera les plus grands musiciens de l'époque, comme les compositeurs français Debussy, Ravel, Satie, Dukas ou encore le russe Stravinsky. Elle reviendra quand même à Pamplonne pour poursuivre pendant quelques années ses activités de musicienne, c'est-à-dire se produire sur scène, enseigner, car elle rentrera même à l'Académie de musique de Pamplonne. Mais elle retournera à Paris pour poursuivre études et travail de composition et de piano, et elle accompagnera là-bas notamment Ravel et Stravinsky avec cet instrument. Alors son activité importante de pianiste l'emmènera au-delà des frontières. Avec le décès de sa mère, elle rompt définitivement avec l'Espagne pour s'envoler vers l'Amérique du Sud. Elle passera par le Brésil, puis atterrit en Argentine, ensuite en Uruguay, où elle poursuit sa carrière de ville en ville, où chaque fois, elle reçoit un bon accueil. Alors en Amérique du Sud, elle se découvrira une passion pour les poètes et la poésie sud-américaine qu'elle mettra en musique, notamment ceux du Mexicain Ramón López Velarde. Alors à New York, où elle est de passage, elle fera des rencontres intéressantes pour sa carrière, et notamment avec le guitariste classique Andrés Segovia, considéré comme le père du mouvement moderne de la guitare classique, et le harpiste soliste Nicanor Zabaleta. Mais l'influence majeure viendra du musicien mexicain Augusto Novaro, qui évolua également dans le domaine cinématographique, mais dont la particularité en musique fut d'élaborer une théorie basée sur les principes acoustiques précis, voire mathématiques, scientifiques, néanmoins insolites, qui le conduisent même à fabriquer ses caisses acoustiques, des instruments expérimentaux pour répondre à une réalité physique et naturelle, mise en évidence par le célèbre philosophe mathématicien grec, né 500 ans avant Jésus-Christ et nommé Pythagore. Ce qui veut dire que chaque son fondamental est produit par une série d'harmonies naturelles qu'il s'agirait de retranscrire et ainsi propice à créer de la nouveauté musicale. Bon, c'est résumé à ma manière, ce que je crois comprendre. À vous de voir de plus près si le sujet vous intéresse, les théories novatrices d'Augusto Novaro. Alors, Emiliana de Zubeldia aurait interprété chansons et autres musiques en intégrant les principes de Novaro et en s'adaptant à ces nouvelles sonorités issues de ses instruments. Et c'est donc à Mexico surtout qu'elle composera et interprétera des œuvres avec les instruments de Novaro. Et leur collaboration durera bien une quinzaine d'années. En 1939, cependant, un accident d'automobile lui esquintera le bras droit. Elle ne pourra plus jouer de piano comme avant, ce qui la liera davantage à la composition et également à la direction d'orchestre. Alors, par la suite, elle sera invitée à rejoindre l'université de Sonora, Sonora étant une province mexicaine, et l'université qualifiée d'institution autonome de service public d'enseignement supérieur de musique qui a été fondée en 1942. Elle y enseignera le solfège, l'histoire de la musique, le piano et prendra la tête de la chorale universitaire. Et son influence sera notable en matière de développement culturel, artistique, musical. Elle saura en outre aussi révéler les talents de main. Et toute cette implication, jugée remarquable par ses pairs, contribuera également à remplir pleinement sa vie de musicienne accomplie, qu'elle aura bien longue, car elle décédera à l'âge avancé de 99 ans sur sa terre d'adoption, le Mexique. Alors, trêve de parole, hein, il est temps maintenant de l'écouter, car j'ai trouvé quelque chose à vous mettre, non pas sous la dent, mais dans l'oreille. Aussi, je vous propose deux chansons jouées au piano qui auraient été proposées en accord avec la théorie musicale de Augusto Novarro. Place maintenant à Emiliana de Zubeldia. J'ai envie de vous faire écouter une autre version, chantée cette fois-ci. Alors, place encore à Emiliana de Zubeldia.
Con el alma, y el alma nunca se muere.
Se présentent encore, hein, elles sont évoquées dans les différents textes que je lis sur la musique espagnole, mais je ne trouve pas toujours d'informations. Ben, l'une d'elles se nommerait Pilar Castillo, elle est née en 1893, mais je ne peux pas vous en dire plus. Par contre, je peux davantage vous en dire de Francesca Paquita Madriguera y Redon, née en 1900, une catalane qui était pianiste mais aussi compositrice. Bon, hélas, je n'ai pas trouvé de composition à vous faire écouter. Ce que je sais d'elle, c'est qu'elle aussi, paraît-il, était une enfant prodige au piano. Son frère était lui aussi musicien, c'est-à-dire violoniste et chef d'orchestre. Elle étudiera avec le compositeur espagnol célèbre Enrique Granados et commencera à se produire dès l'âge de 11 ans, d'abord à Madrid, puis à Londres. Elle se produira également aux États-Unis, entre autres avec son frère. Sa carrière prendra brutalement fin avec son mariage en 1922. Bon, c'est sans doute dommage de couper court à une si belle carrière, mais bon, c'est ainsi, hein. Impossible par contre de vous dire s'il y eut une pression de l'environnement. Quoi qu'il en soit, elle vivra ensuite en Uruguay, aura 3 enfants, perdra son premier mari et se remariera 10 ans après, quand même avec un musicien, un guitariste nommé Andrés Segovia, et elle finira sa vie en Uruguay à l'âge de 65 ans. Alors, ce que l'on peut retenir de cette destinée, ben, c'est une carrière prometteuse qui, semble-t-il, fut interrompue en pleine ascension. Et nous, ben, nous allons interrompre cette émission car le temps est venu de nous quitter. Et oui, le temps est passé. Nos autres invités, artistes, créatrices espagnoles, attendront la prochaine émission pour se manifester. J'espère aussi trouver quelques musiques à vous faire écouter. En tout cas, je vous remercie de votre écoute pour ces émissions concoctées toujours avec beaucoup d'attention afin de vous apporter de nouvelles connaissances, susciter votre intérêt pour en découvrir encore davantage et même en dehors de la Voix des Arts. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.